en 2002, parut le deuxième roman de Petronille Fanto, Le Néon, aux éditions Stock. Je me jetais dessus. Il y était question de l'adolescence contemporaine. Le héros, Léon, sorte d'oblomov de 15 ans, entraînait sa famille entière dans son vertige nihiliste. Le livre me fascina plus encore que le premier. Il avait une manière subtile et drôle de prêcher le désespoir. J'écrivis à Petronille l'une de ses lettres dont j'ai le secret. Il est très difficile d'exprimer une admiration profonde à qui l'inspire. Par oral, j'en suis incapable. La plume me permet de contourner ce blocage. À l'abri du papier, je parviens à me désempêtrer de mon excès d'émotion. Pessoa dit qu'écrire diminue la fièvre de ressentir. Ce propos sublime ne se vérifie pas chez moi, au contraire. Écrire augmente ma fièvre de ressentir, mais, à la faveur de cette élévation grave d'une température déjà critique, fait jaillir des formes précises de la confusion dans laquelle je baigne. Petronille me téléphona. Elle semblait heureuse de ma bafouille, car elle s'exclama.
« Dis donc !»«
Merci. »«
Vu ce que tu penses de mon livre, tu dois crever d'envie de m'inviter à boire du champagne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'accepte. »
Il me restait une bouteille de mon dédommagement moral post-Vivian Westwood. À la fin de la deuxième flûte, je déclarai à Petronille qu'elle dénonçait dans Le Néon une tendance actuelle. La contamination des adultes par les valeurs adolescentes.
« Quel dommage que tu n'animes pas un débat télévisé de fin de soirée sur France 2 »
dit-elle.
« Moque-toi, c'est vrai !»«
On peut continuer cette conversation au zinc, si tu vas par là. »
Petronille ne tolérait que les conversations légères, sauf quand il était question de politique. Là, tôt ou tard, ressurgissait la fille de militants communistes. Et venait le moment où elle s'exclamait, que ce soit au sujet des salaires, du chômage ou de n'importe quoi,
« C'est précarisant, tu te rends pas compte !»
Cet adjectif, dont elle use encore aujourd'hui avec la dernière indignation, m'a toujours stupéfié. À part Petronille Fanto, je n'ai jamais entendu personne l'employer, pas même Arlette Laguiller ou Olivier Besancenot. Pour moi, c'est la pax de Petronille. Je l'ai entendu qualifier de telles choses dont je n'imaginais pas qu'elle pouvait avoir le moindre rapport avec la précarité. Ce soir-là, comme elle m'annonçait qu'elle allait dédicacer dans quelques prestigieuses librairies parisiennes et que je l'en félicitais, je la vis se mettre en colère. J'essayais de comprendre ce qui l'animait. Elle lâcha le morceau.
« Ces libraires bourgeois devraient payer les écrivains qui viennent perdre 2 heures de leur vie à dédicacer chez eux. »
« Voyons, Petronille, qu'est-ce que tu racontes? Les libraires ont déjà tant de mal à joindre les deux bouts. De la part d'un libraire, convier un auteur à dédicacer chez soi, c'est une prise de risque pour eux, un cadeau pour lui. »
« Tu marches dans ce discours, toi, hein ?» Ce que t'es naïve. Moi, je dis que tout travail mérite salaire. La dédicace non rémunérée, c'est précarisant.
J'en demeurai sans voix.
Dis donc, y a marée basse,
se plaignit-elle en me tendant sa flûte vide. Nous avons bu la bouteille entière.
Fais-en péter une autre, alors.
Non, je crois que nous allons en rester là. J'avais observé que plus elle buvait, plus ses propos s'aventuraient à la gauche de la gauche.
« Quoi? Rien qu'une bouteille à boire? Toi, Amélie Nothomb, dont l'appartement regorge de champagne? C'est obscène, c'est dégoûtant, c'est... »«
Précarisant ?» proposai-je.
« Voilà !»
Être la compagne de beuverie de Petronille ne s'avérait pas de tout repos. Peu après, tandis qu'elle et moi étions en train de nous imbiber de mouettes lors de Dieu sait quelle manifestation littéraire, elle déclara l'urgence de partir au ski. Je ne sais plus exactement comment elle amena le sujet. Je reconstitue d'après imagination et probabilité.
Regarde-les, ces babouins. À force de les fréquenter, je te jure que j'ai besoin de respirer l'air des cimes.
J'adore la montagne, avais-je innocemment enchaîné.
Parfait, on est en décembre. Toi et moi, on va skier avant la fin du mois. Trouvons quelqu'un.
Je ne sais plus à qui nous nous sommes adressés, mais le lendemain matin, nous disposions d'une réservation pour 2 personnes dans une station alpine qui, pour la commodité du récit, sera nommée Acariaz. Je téléphonais à Petronille pour l'interroger sur ses démarches. Elle avait l'ivresse encore plus amnésique que moi.
« Écoute, je me souviens de rien. Mais c'est chouette, on va skier. Tu t'occupes des billets de train ?»
Au fond, elle avait raison. Il faut forcer le destin. S'il suffisait de mes initiatives, il ne se passerait jamais rien dans la vie. Le 26 décembre, après 2 trains et un taxi, nous arrivâmes à Acariaz, 1200 mètres d'altitude. Nous jetâmes nos affaires dans l'appartement chalet. Petronille trépignait d'impatience.
il fallut revêtir aussitôt sa tenue de ski et monter au front. Tandis que nous attendions dans la file des abonnements au télésiège, elle dit « Depuis combien de temps n'as-tu plus skié ?»«
Depuis le Japon. »
« C'était avec le fameux fiancé, alors ?»«
Non. C'était quand j'étais petite. »
Il y eut un silence. « T'avais quel âge ?» demanda-t-elle.
« 4 ans. »
« T'es en train de me dire que t'as plus skié depuis tes 4 ans ?»«
En effet. »
« Et maintenant, quel âge as-tu ?»«
35. »
Pétronille soupira de consternation. « Ne compte pas sur moi pour donner des leçons. Je suis venue pour m'amuser, moi. »«
Je n'ai pas besoin de tes leçons. »
« T'as plus skié depuis plus de 30 ans, Amélie. »«
À 4 ans, je skiais très bien. »«
Ouais, t'as obtenu ton flocon d'honneur à la maternelle. »« Je suis impressionnée. »«
C'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. »«
Bien sûr que si. »«
Je crois au génie de l'enfance. »
Pétronille prit son visage dans ses mains et dit « Nous allons au-devant du désastre. »«
Je t'assure que je sens dans mes jambes comment procéder. »
À 14h30, nous étions sur les pistes. Le soleil brillait, l'enneigement était idéal. Mon enthousiasme culminait. Pétronille s'élança comme une flèche. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, elle avait descendu l'immense pente avec une élégance et une fluidité sans faille. Au sommet de l'allégresse, je l'imitais. 2 mètres plus loin, je m'effondrais. Je me remis debout aussitôt et m'élançais pour me retrouver par terre à la seconde. Ce manège se reproduisit 15 fois d'affilée. Pétronille avait eu le temps de prendre le tire-fesse et était auprès de moi.
« Le génie de l'enfance n'a pas l'air de fonctionner. Tu veux que je t'apprenne ? Laisse-moi tranquille !»
Moins de 10 minutes plus tard, elle avait dévalé, remonté et était de nouveau à côté de moi qui tombait toutes les 5 secondes.
« Nous avons un problème, » dit-elle. « Tu vas avoir besoin d'un professeur très patient. »
J'éclatais en sanglots.
« Et d'un psychiatre !»
ajouta-t-elle.
« Fiche-moi la paix. Je suis sûre que j'en suis capable. C'est ta présence qui me bloque. Tu ne pourrais pas aller sur une autre pente, très éloignée de celle-ci ?»«
D'accord. » Elle disparut. J'étais donc seule, avec au pied 2 corps étrangers qui étaient censés devenir le prolongement de mes jambes et qui, pour l'instant, me donnaient l'impression d'avoir des sabres ottomans en guise de chaussures. Je fermais les yeux et plongeais en moi pour retrouver mes 4 ans. Au début des années 70, le Tyrol était un fantasme nippon ravageur. Mes parents avaient loué pour une semaine un chalet aux allures d'horloge à coucou dans une station des Alpes japonaises. Les moniteurs portaient des culottes de peau et les hôtesses des robes au corsage brodé d'Edelweiss. C'était Noël. Quand nous allions boire un chocolat chaud, il y avait toujours un chœur nippon chantant en allemand des hymnes à la gloire des sapins. Cet univers me paraissait d'une étrangeté sublime. Sur les pistes, ma mère m'avait donné des rudiments qui avaient porté leurs fruits. À la fin de la semaine, je filais comme l'éclair sur mes skinins. Je parvenais même à tourner.
« Si je garde les yeux fermés, j'en suis capable !»
décidai-je. Dont acte. Je m'élançais dans le noir, et en effet, les sensations me revinrent. En pivotant régulièrement, je me retrouvais au bas de la pente sans m'être effondré. Je poussais un hurlement de triomphe. Tandis que je me dirigeais vers un tire-fesse, un escogriffe me rejoignit.
« À quoi vous jouez ? J'étais en train d'enseigner le ski à mes gosses et vous avez failli tous les percuter !»«
Pardon, c'est parce que je fermais les yeux !»«
Vous êtes malade ou quoi ?»
Il valait mieux changer de méthode. Heureusement, quand j'eus remonté la pente, je m'aperçus que même les yeux ouverts, je skiais très bien. C'était délectable de slalomer dans la poudreuse, de prendre les bosses pour tremplin. Quel sport merveilleux! J'essayais d'autres pistes. Tout me réussissait. Je fus rattrapée par Pétronille, ébahie.
Que s'est-il passé? Je crois au génie de l'enfance, répétai-je.
Nous skiâmes de conserve jusqu'au soir. Depuis combien de fois ai-je entendu Pétronille raconter cette histoire?
Je me retrouve au sport d'hiver avec une débutante si nulle qu'elle chiale et 1 heure plus tard, je m'aperçois qu'elle se débrouille comme un pro. Elle est pas normale, je vous assure.